Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 dans une poignée de secondes. Il sera 8h et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Du journal sur RMC de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture attendue de pied ferme ce matin au sud de Toulouse pour rencontrer les agriculteurs mobilisés contre les abattages systématiques de troupeaux en cas de dermatose nodulaire. RMC est sur place. Les conséquences en France au lendemain de l'attentat antisémite qui a fait 15 morts en Australie. Vous verrez que la sécurité est renforcée près des lieux de culte en cette période de fête. Et une demande de grâce adressé au président algérien pour lui demander de libérer le journaliste français Christophe Glaize emprisonné en Algérie.
La mobilisation des agriculteurs prend encore de l'ampleur ce matin.
Oui, avec une trentaine de points de blocage désormais recensés, un nouveau depuis hier soir près de Bordeaux et toujours sur l'autoroute A64 qui est fermée sur une centaine de kilomètres entre Tarbes et le Pays Basque et bloquée donc au sud de Toulouse, à Carbonne précisément, au même endroit que lors de la dernière grande crise agricole. C'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC. Cassandre Brault, envoyée spéciale, et c'est là que va se rendre la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour défendre la position du gouvernement qui est d'étendre la vaccination, mais de continuer les abattages. Les agriculteurs que vous rencontrez ce matin, ils vous disent quoi ?
Oui, les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'espoir que la visite en Occitanie de Annie Genevard débloque la situation. Les agriculteurs présents ici à Carbonne, comme les syndicats et notamment la coordination rurale et la confédération paysanne, attendent de la ministre qu'elle revienne sur le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire. Parmi ceux qui ont passé la nuit ici, Laurent Abadi, éleveur d'une soixantaine de vaches.
C'est pas une solution d'abattre des troupeaux entiers. Il faut trouver une autre solution. Voilà, donc changement de protocole. Si elle fait des propositions, on va attendre qu'il y ait de l'effet et après on envisagera de partir. Tant qu'il n'y aura pas des actes concrets, on bougera pas, ça c'est sûr. Il faut toujours avoir un peu d'espoir. Mais bon, le combat va être compliqué.
Le blocage est toujours bien en place ici sur l'autoroute A64. Aucune voiture ne circule. Les agriculteurs s'organisent, se relaient. De nouveaux chauffages sont arrivés hier soir et des sapins de Noël sont là. Ils l'affirment, ils sont prêts à passer les fêtes de fin d'année ici, s'il le faut.
Il y a cette colère que vous racontez ce matin en direct pour RMC. Cassandre Brault, s'ajoute le calendrier européen. Le traité du Mercosur censé être signé cette semaine à Bruxelles, mais le compte n'y est pas, estime le gouvernement français qui demande donc un report des échéances. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC à propos de la traque de Mohamed Amra. Vous vous souvenez de son évasion de prison il y a un an et demi. Deux agents pénitentiaires étaient morts ce jour-là au péage d'Incarville. Mohamed Amra avait été retrouvé 9 mois plus tard en Roumanie grâce à un témoin privilégié qui a aiguillé les enquêteurs. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Vous nous révélez donc cette information. Vous nous dites que ce témoin a livré sous X des informations très importantes sur la localisation notamment de Mohamed Amra.
Oui, lorsque ce témoin majeur se manifeste, cela fait plus de 7 mois que Mohamed Amra est en cavale. Les policiers multiplient les pistes de recherche pour le retrouver en région parisienne, en Espagne, mais aussi en Normandie, sa région natale. Et ce témoin, entendu sous X, vient révéler aux enquêteurs qu'il a vu la mouche dans les rues de Rouen en train de discuter avec un autre homme à l'entrée d'un kebab. Cela confirme l'important travail de téléphonie mené jusque-là par les enquêteurs. Mohamed Amra est en cavale, mais jamais loin de chez lui. D'après ce témoin, quelques jours avant sa déposition, Amra était même à Évreux pour un échange de drogue. Selon nos informations, ce témoin clé est un proche, voire un très proche d'Amra, puisqu'on nous explique qu'il connaît l'environnement personnel de la mouche, les compagnes officielles et les officieuses du fugitif. L'homme, c'est même le surnom que Mohamed Amra donne à son jeune fils. Plusieurs sources proches de l'enquête nous précisent que ce témoin a été en mesure de lister les noms de potentiels complices de la mouche. 4 d'entre eux sont aujourd'hui mis en examen. Et au regard de ces éléments, l'audition de ce proche d'Amra s'est faite sous X, une procédure rare pour protéger un informateur qui prend de très gros risques en témoignant.
Information, révélation, RMC signé Pierre Bazin ce matin. Pas cours, il n'y a pas cours ce matin au collège Champollion de Dijon. Pourquoi ? Parce que ce collège a été touché par un incendie sans doute criminel. Durant le week-end, le préfet évoque un possible lien entre cet incendie et le narcotrafic. Le collège se trouve dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon avec des dealers tout autour, expliquait une enseignante un petit peu plus tôt ce matin sur RMC. Il sera fermé pour plusieurs mois, la faute, il faut des travaux. Les cours reprendront seulement jeudi, mais alors à distance, on ne sait pas encore ce qui se passera à la rentrée de janvier. Le président algérien va-t-il intervenir dans l'affaire du journaliste français Christophe Glaize ? à nouveau condamné. C'était au début du mois à 7 ans de prison pour ses contacts avec des personnes liées à un mouvement séparatiste dans le cadre d'un reportage sur un club de foot. Alfred Orange, pour RMC, sa mère vient d'adresser une demande de grâce au président algérien.
Oui, dans cette lettre, Sylvie Godard fait appel, je cite, à la haute bienveillance du président algérien pour libérer son fils. La mère de Christophe Glaise écrit d'abord que la condamnation en appel du journaliste à 7 ans de prison est un choc immense pour elle et sa famille. Cette sentence, poursuit-elle, nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de mon fils. Une lettre teintée d'émotion où la maman du journaliste sportif argumente aussi sa demande. Nulle part dans ses écrits vous ne trouverez trace d'un quelconque propos hostile à l'Algérie et à son peuple. Un courrier qui intervient au lendemain de la demande des avocats de Christophe Glaise de former un pourvoi en cassation contre sa condamnation dans le but d'obtenir un nouveau procès.
Voilà pour cette demande de grâce avec Alfred Orange, matin pour RMC.
8h05 sur RMC, c'est un jour de deuil qui a commencé en Australie.
Oui, au lendemain de l'attaque terroriste et antisémite qui a fait 15 morts, dont un Français de 27 ans. C'était hier matin sur une plage mondialement connue de Sydney, perpétrée par un père et son fils, père abattu par la police, fils qui avait déjà fait l'objet d'une enquête pour ses liens avec Daesh. C'est ce que disent les médias australiens ce matin. Attaque commise le jour de la fête juive de Hanouka, sécurité immédiatement renforcée près des lieux religieux en France, d'ailleurs, Julie Brault.
Oui, seulement quelques heures après l'attaque sanglante contre la communauté juive à Sydney, Laurent Nunez a demandé hier à tous les préfets de France de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des lieux de culte juifs. Dans ce télégramme adressé également aux responsables de la police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur souligne, je cite, la prégnance de la menace terroriste et des tensions au plan international qui exigent, dit-il, le maintien d'une extrême vigilance. Une consigne qui intervient deux jours après l'envoi d'un premier télégramme dans lequel Laurent Nunez appelait déjà à une surveillance accrue autour des célébrations juives de Hanouka qui se déroulent jusqu'au 22 décembre avant de lister les nombreuses attaques qui ont visé plusieurs lieux de culte cette année, notamment la dégradation de 3 synagogues et du mémorial de la Shoah à Paris.
Sécurité renforcée aussi près des lieux de culte chrétiens à 10 jours maintenant de Noël. Tiens, à l'approche des fêtes, on saura ce matin si les salariés du Louvre se lancent ou pas dans une grève reconductible juste avant les vacances pour dénoncer la vétusté du musée et demander plus de moyens. Ils doivent se réunir en assemblée générale à 9h donc ce matin. Il y a un grand changement depuis ce week-end dans les trains. Certains de vous l'ont peut-être déjà remarqué, la numérotation des places a été modifiée dans les TGV Inouï. Des centaines d'agents SNCF ont changé pas moins de 123 000 étiquettes durant le week-end. Alors désormais, si on monte dans un train, Rachel Sadodine, eh bien on aura un numéro de place à 3 chiffres.
Oui, si vous avez déjà pris un train Ouigo, les trains low cost, eh bien en fait ce sera exactement la même chose. Concrètement, si vous êtes à la place 332, il faudra monter dans la voiture 3 et choisir le siège numéro 32. Le but, selon la SNCF, c'est d'éviter aux voyageurs de se tromper de voiture. Le fameux « excusez-moi monsieur, vous êtes à ma place ?» Plus de ça, et puis il y aura aussi un autre avantage, vous pourrez directement savoir si votre place est située en haut ou en bas du train. Toutes celles numérotées au-dessus de 40 sont à l'étage. Mais dans les trains à double rame, là, ça risque de coincer un petit peu. Le numéro 123, il pourra aussi bien désigner la place numéro 23, située en voiture 1 ou bien alors en voiture 11. Pas de panique.
Mais oui, ça m'inquiète beaucoup, je suis d'accord. J'ai la même réaction qu'Emmanuel.
Ils sont pas capables de mettre 4 chiffres.
Là, je comprends plus.
Alors, c'est pas la peine de mettre 4 chiffres, puisque des fois, il y a des trains avec une seule rame et là, ça n'aurait pas été nécessaire. Mais du coup, pour régler le problème, c'est simple, il y aura quand même le numéro de voiture à l'ancienne indiqué sur les
billets. Bon, faut nous rassurer.
Mais donc, il y aura peut-être deux places 123 dans un même train. Voilà.
Ça c'est trop angoissant.
Alors, je vous donne les trois premiers de la Ligue 1 en foot à l'issue de la 16e journée de championnat qui s'est terminée hier soir par la victoire de Marseille 1-0. C'était contre Monaco. Marseille 3e, Paris 2e. Et c'est Lens qui passera les fêtes en tête, leader grâce à sa victoire 2-0 hier contre Nice.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08. On part au 32-16. Vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner sur cette crise agricole. Et c'est votre cas, Cédric. Bonjour, Cédric.
Bonjour, Apolline.
Cédric, agriculteur à Draché, en Indre-et-Loire. Vous êtes vous-même éleveur?
Oui, éleveur de porc.
Éleveur de porc. Cédric, on sent le monde agricole divisé, perplexe. Certains qui sont littéralement opposés à tout abattage. D'autres qui, au contraire, disent qu'il faut abattre. Et ce sont d'ailleurs les consignes aujourd'hui, les consignes sanitaires du gouvernement, mais que partage la FNSEA. Quelle est votre position à vous, Cédric?
Moi, la position, c'est déjà d'être en soutien avec les agriculteurs qui sont concernés. Déjà, premièrement, parce que en tant qu'éleveur, je sais que ça doit pas être drôle d'avoir son troupeau abattu. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire. Et puis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont vécu avec la tuberculose, la brucellose par le passé. Ils ont éradiqué ces maladies-là par l'abattage des troupeaux. Aujourd'hui, pour vos auditeurs, j'aimerais quand même rappeler comment se transmet cette maladie. Cette maladie, c'est une maladie qui est dite vectorielle, qui se déplace non pas par les contacts entre animaux, mais par des piqûres d'insectes qui piquent les animaux, qui ont accès au sang et qui vont repiquer d'autres animaux et transmettre la maladie par ce biais-là.
Donc il suffit pas de les isoler.
Il suffit pas de les isoler parce que quel est leur but, hein, si c'est pour faire de la récupération syndicale ou pour montrer qui a la plus grosse ou.
Ouais, on sent en ce moment qu'il y a quand même aussi une vraie concurrence des colères et une concurrence des syndicats avec la FNSEA qui est plutôt en soutien de la décision sanitaire qui a été exprimée par le gouvernement et la coordination rurale à l'inverse qui, après avoir d'abord été d'accord avec cette stratégie, aujourd'hui la conteste. Hein.
Oui, malheureusement, et puis c'est malheureusement sur ce sujet-là que faut pas aller dans le sens du vent. Faut être solidaire, faut être solidaire pour la filière bovine française pour que demain elle existe encore. C'est une maladie aujourd'hui qui peut aller jusqu'à décimer 15% des animaux malades, enfin des derniers troupeaux. Et après, il y a des causes de comorbidité, des avortements, des pertes de production, notamment en lait, qui peuvent aller jusqu'à 45%. Et aujourd'hui, de dire qu'on va vivre avec cette maladie, ça veut dire vivre avec aussi ce risque de comorbidité, de perte des animaux.
Je trouve particulièrement intéressant, Cédric, la mémoire que vous nous transmettez ce matin. C'est-à-dire aussi ce que vous dites sur ce que nos anciens ont été obligés de faire, notamment face aux maladies du début du siècle. Merci Cédric, en tout cas, d'avoir témoigné au 32-16 sur RMC. Toutes ces voix agricoles que l'on entend ce matin. Il est 8h11 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, les petits colis, on n'arrête pas d'en parler, les petits colis importés dans l'Union européenne, eh bien les Européens se sont mis d'accord cette nuit, ces petits colis seront bien taxés.
Oui, effectivement, ils seront taxés 3 euros, hein, petits colis qui 9 fois sur 10 arrivent de Chine, échappent. Trop souvent aux taxes auxquelles ils devraient normalement être soumis, ne sont pas aux normes de qualité européenne et dont le processus de fabrication et de livraison n'est pas très écologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette taxe permettra de faire la transition avec un autre dispositif qui entrera en vigueur, lui, en juillet 2028, donc 2 ans plus tard. Et là, il y aura plus de limite de prix, 150 euros, pas 150 euros. Tous les produits qui entrent en Europe seront soumis au même droit de douane.
Oui, parce qu'il faut bien l'expliquer, c'est que cette taxe de 3 euros, elle vient dans un contexte global où, on le sait, les plus petits colis ont été exonérés de taxes ou de droits de douane. Cette taxe, donc 3 euros, ça ne remplace pas la taxe sur les petits colis qui est discutée juste en France, là, pour
exactement. Cette taxe donc européenne de 3 euros s'ajouterait à la taxe qui est discutée en France dans le projet de budget 2026 si la mesure est adoptée et elle a de fortes chances de faire l'objet d'un consensus. Et donc, elle pourrait se cumuler à la taxe européenne. On n'aurait pas de problème vraiment de réglementation, de loi, puisque la taxe française s'est considérée comme des frais de gestion, alors que la taxe européenne s'est considérée comme des droits de douane. Alors, son montant a été fixé à 2 euros par le gouvernement. Les députés ont dit OK. Puis les sénateurs ont dit non, 2 euros, c'est pas assez. Il faut 5 euros. Donc, on attend de voir ce que va donner le retour du budget à l'Assemblée nationale. Mais vraisemblablement, ce sera entre 2 et 5 euros. Et à partir de novembre, là, 2026, ces frais de gestion seront étendus à toute l'Europe entre 2 et 4 euros. Donc vous voyez que on ne va cesser d'accumuler les nouvelles taxes, en fait, sur ces petits colis.
Donc, on aurait 3 euros plus 2 à 4 euros. Au final, comment toutes ces taxes vont se répercuter sur le prix et sur les consommateurs?
Alors, il y a quelques subtilités. La taxe européenne, elle est basée sur les catégories de produits. Donc, par exemple, si vous achetez 2 chemises, la plateforme, puisque c'est elle qui paiera uniquement 3 euros, une seule catégorie de produits. Si, en revanche, vous achetez une chemise et une casserole, là, vous avez 2 catégories de produits, donc vous paierez 2 fois 3 euros, vous paierez 6 euros. Si la taxe française est à 2 euros et que vous avez 2 produits, ça fera 4 euros. Donc, imaginons votre colis, votre casserole et votre chemise qui vous coûte à peu près 30 euros, bah, ça vous ferait quand même 10 euros de plus. C'est c'est loin d'être négligeable. Alors, en moyenne, on a quoi? En moyenne, les gens commandent 25 colis par an avec 7 ou 8 articles par colis pour un montant moyen de 50 à 70 euros. Au final, ça peut augmenter de 50% le prix du colis. Alors, toute la question, c'est comment les plateformes vont répercuter ou non ces taxes sur le consommateur. Il y a des simulations qui ont été faites. Si c'est la moitié de la hausse qui est répercutée, ça pourrait faire baisser le flux d'échange de 10 à 20%. Donc ça aurait quand même un impact significatif sur les achats.
Merci Emmanuel Le Chypre, 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, notez que l'invité du face-à-face, ce sera la députée européenne Marion Maréchal. Juste après ça, c'est comme chaque matin, Nicolas Canteloup qui sera avec nous avec ses imitations face à Canteloup à 8h50. Et puis Mathieu, les réactions nombreuses sur le standard et l'application RMC ce matin, ainsi que le WhatsApp. Et c'est principalement sur la question agricole. Que
les Ah oui, la mobilisation des agriculteurs qui fait débat, hein, d'ailleurs, disons-le. Vous êtes divisés sur la question, comme le sont les agriculteurs eux-mêmes. Frédéric nous écrit: pourquoi dans d'autres pays ne font pas comme nous pour cette maladie? Nous, on tue les bêtes et les autres les mettent à l'écart, les malades. Pourquoi ça se passe comme cela? On veut tuer les paysans français, nous dit Frédéric ce matin sur le WhatsApp RMC. J'ai Julien qui nous dit: 1000 gugus radicalisés de la coordination rurale type RN et d'autres de la Confédération paysanne type LFI pour foutre le bordel, les cassos complotistes d'extrême droite main dans la main avec les casseurs anticapitalistes d'extrême gauche. Des escrocs, dit Julien ce matin sur le WhatsApp RMC. Il faut arrêter de plaisanter sur les vrais agriculteurs qui se battent tous les jours pour sauver leurs exploitations. Voilà ce qu'écrit Geoffrey. La FNSEA, ils sont du côté du gouvernement et de l'Europe, toujours plus d'argent dans leur poche. Voilà ce que pense Geoffrey. Et puis Méré qui nous dit: le gouvernement, ne sachant rien et par mesure de précaution, abat un troupeau, même les vaches vaccinées, comme dans le Doubs, nous dit Méré.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Hello you. Yeah. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la dernière semaine avant Noël, celle où on prépare les cadeaux. Les enfants attendent avec impatience le Père Noël, ce monsieur farceur, âgé et barbu, qui rentre chez vous en pleine nuit parce qu'il aime vos enfants. Oh, hein, il rentre dans la chambre des petits, il les regarde dormir, tellement attendri. Puis il dépose des jouets sous un conifère mort décoré par une mère de famille en burn-out. Voilà, c'est la tradition.
Rien,
mais non, mais je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Vous savez que les enfants peuvent même téléphoner au Père Noël. Moi, jamais mon gamin, il fait ça. Jamais il appelle un vieux au téléphone qui lui dit: t'as été mignon cette année. Tu sais, je te regarde souvent de là où je suis. En plus, ça coûte 3 euros la minute. Il a trouvé une bonne combine, Gabriel Matzneff.
Hein. Oh non.
Théotime, tu aimes les films avec des gladiateurs? On va raccrocher, monsieur. L'actu, la crise agricole, les abattages de troupeaux de bovins liés à la dermatose nodulaire ravivent la colère des agriculteurs. Vous savez, quand la bête est malade, on abat tout le troupeau. Là, la situation est tellement grave que même la vache qui rit, elle fait la gueule. C'était la blague de notre calendrier. De l'avant du Noël. Vive Noël. Alors je suis pas un spécialiste en dermatose nodulaire contagieuse, donc je suis allé me renseigner sur Facebook, parce que figurez-vous que tous les gens qui étaient médecins pendant le Covid, ils sont tous devenus vétérinaires. Du coup on a plein d'informations. Vous savez que c'était Bill Gates? La dermatose nodulaire, c'est Bill Gates en fait. Il veut équiper nos vaches avec de la 5G parce qu'il est juif. On apprend des trucs sur Facebook, c'est du délire. Je veux pas inquiéter les éleveurs, mais on a le même président que pendant la crise du Covid, hein. Donc il va débarquer à la télé: Françaises, Français, nous sommes en guerre contre la dermatose nodulaire contagieuse. J'ai donc reçu la ministre de la Culture. Cette sale conne! Brigitte, calme-toi. Calme-toi. Je propose que chaque soir à 20h à nos fenêtres, nous applaudissions nos vétérinaires, soutenons nos vaches. Les vaches, c'est surtout ces connasses de féministes, bande de grosses à cheveux bleus. Brigitte, j'avais repris 4 points dans les sondages, tu fais chier. Mais elle est dure en ce moment.
Hein. Alors
pour Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, l'abattage de tout l'élevage, c'est la seule solution si une bête est malade. Heureusement qu'elle n'a pas été ministre de la Santé pendant le Covid. T'imagines, t'as un collègue qui tousse à côté de toi. Et Genevard qui débarque. Abattez-les tous! L'enfer.
Anne Hidalgo a échoué, Arnaud, à prendre la tête du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU.
Oui, au Commissariat aux réfugiés, ils ont visité Paris, ils ont vu l'état de la ville, ils ont fait... Je sais pas, hein. On va plutôt nommer l'ancien président irakien. son pays est en meilleur état. C'est vrai qu'ils l'ont nommé lui. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire à partir du mois de mars, Anne Hidalgo? Déjà, faudra faire un bilan de compétences chez France Travail. Alors, Madame Hidalgo, je vois sur votre dossier que vous aimez les travaux, vous détestez les voitures et vous avez une passion pour enlaidir les rues. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai maire de Grenoble, ça vous tente? Ah non, tout est déjà cassé là-bas, en plus, c'est nul.
La publicité Intermarché mettant en scène un loup végétarien qui se fait des amis est un succès.
Bah oui. Tout le monde fond pour ce loup qui devient végétarien pour avoir des amis, alors que tout le monde sait que les végétariens n'ont pas d'amis. Mathieu Béliard en sait quelque chose, hein.
Mathieu, merci de m'avoir invité à dîner, mais en fait, je mange pas de génocide de bœuf, en fait. Mais j'ai fait un tataki de bœuf en basse température au fer de jus oxydé et gel translucide de terroir bovin. Ça m'a pris 7 heures et j'ai dû le faire avec Thomas Pesquet, tellement c'est compliqué. Alors tout le monde sait que les loups ne sont pas végétariens en plus. Ils mangent les mers grands. Hein,
oui.
François Bayrou le disait, si les meutes de loups n'avaient pas été éradiquées en France, ils auraient pu bouffer nos grands-mères et il y aurait moins d'enculés de boomers et de retraites à payer. Donc réintroduisons les loups dans les centres-villes avec des vieux comme à Nice ou à Cannes.
Voilà, bien sûr.
Alors un jeune loup qui fait tout pour être inoffensif et populaire, bon bah Bardella va déposer une plainte pour plagiat et tout ça va relancer la mode des pubs de Noël.
Oui.
Un miracle se produisit au pied du sapin. Une poupée devint vivante.
Oh mon Dieu, c'est merveilleux! Je suis en vie! Je sens l'odeur du sapin! Je peux marcher! Je suis devenue une vraie petite fille! C'est le miracle de Noël!
Je la sens pas bien cette blague.
Oh, ma poupée chine qui parle! Théotime, il faut que je te laisse! Ma petite fille, t'as été sage cette année?
Ce court-métrage féerique vous a été présenté par le BHV. Le BHV, trois lettres pour le plus beau des Noëls. Allez, profitez bien de la magie de Noël.
Merci, Arnaud. Et on est avec Christophe qui a gagné aujourd'hui.
Bonjour. RMC vous offre un fabuleux Noël.
What? Bonjour Christophe.
Bonjour Apolline.
Christophe, chargé clientèle. Alors j'avoue, je vais avoir du mal à prononcer le nom de votre village. Je propose que vous le disiez vous-même.
Alors je vais le raccourcir volontairement. Donc c'est Ilkirch à côté de Strasbourg.
Ah mais j'ai joué là-bas.
Grafenstaden, à côté de Strasbourg.
Ça, ouais.
Félicitations en tout cas Christophe. On va ouvrir le calendrier.
Le 15.
On est le 15. Attention, on y va. Ouais, j'ai toujours peur d'ouvrir pas la bonne case. Attention. Et ce serait dommage Christophe, parce que ce matin, vous, oh là là, vous avez gagné une Smart TV QLED 4K de 65 pouces. Ça fait 165 centimètres. Vous allez pouvoir nous regarder en très, très, très grand écran.
Génial.
600 euros. Bravo. Bravo, Christophe.
Merci beaucoup. Merci. Je suis super content. Merci.
Merci d'avoir écouté RMC et d'avoir joué avec nous. Félicitations pour votre fidélité. Il est 8h24. Dans un instant, le face-à-face, ça se passe sur RMC et BFM TV. Et mon invité, c'est Marion Maréchal. 8h24. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal. Vous êtes présidente du parti Identité Liberté que vous avez créé et vous êtes députée européenne. On va en venir à la colère agricole, la ministre de l'Agriculture qui est attendue dans le sud-ouest d'un instant à l'autre. Mais Marion Maréchal, d'abord l'horreur en Australie. 15 morts et au moins 40 blessés dans un attentat terroriste qui visait des juifs. Les fêtes de Hanouka, fêtes juives des Lumières sur une plage. L'antisémitisme encore, est-ce que vous y voyez un lien avec la montée de l'antisémitisme dans le reste du monde? Et d'abord, votre réaction?
Bah évidemment, un sentiment d'horreur, d'autant plus que lorsqu'on est français, tout de suite, ça fait ressurgir des souvenirs morbides, hein, nous-mêmes ayant été victimes de ce djihadisme. Djihadisme qui est aujourd'hui une menace mondiale, qui n'a jamais été aussi aiguë. C'est 56 000 morts en 10 ans, hein, le djihadisme. 305, je le rappelle, en France. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui frappe tout particulièrement, disons-le, l'Occident au sens large, hein, puisque les islamistes nous voient comme un bloc civilisationnel, comme les mécréants, finalement, à abattre. Ils veulent pas seulement nous détruire, mais nous convertir de force, d'une certaine manière. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, les mêmes causes entraînent les mêmes effets de Paris à Sydney. C'est-à-dire que nous sommes face à des pays aujourd'hui qui accueillent de manière très importante des populations immigrées venant d'un certain nombre de pays musulmans. Parmi cette population immigrée, on trouve une part d'islamistes. Et parmi ces islamistes, on trouve des gens qui passent à l'acte de manière violente. Et donc, ça devrait nous appeler à une prise de lucidité et à une rupture radicale avec les politiques d'immigration menées.
Pour vous, il s'agit d'une guerre de civilisation ?
Ah bah indéniablement, d'ailleurs, c'est dans les guerres de civilisation, vous savez, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et l'ennemi islamiste nous a désigné comme un ennemi à abattre ou à convertir. Et c'est un sujet d'autant plus grave qu'aujourd'hui, c'est vos confrères du Point qui l'avaient relevé à la suite d'un sondage IFOP qui avait été fait sur l'état de radicalité, si je puis dire, de la communauté musulmane en France. Nous avons à peu près 142 000 personnes en France qui ont des sympathies pour les courants djihadistes. C'est-à-dire 142 000 personnes en France, c'est une armée. Il faut imaginer
que vous avez traduit les pourcentages de cette étude en nombre. Donc vous estimez qu'il y a 142 000 personnes en France qui sont des djihadistes en puissance. C'est comme ça que vous le dites.
Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos confrères du Point qui en effet sont partis de ce chiffre terrifiant qui fait que 3% aujourd'hui des musulmans en France ont des sympathies pour le djihadisme. Je rappelle que c'est 42% également des jeunes de 18 à 25 ans qui ont une sympathie pour un courant islamiste au sens large. Donc il y a quand même aujourd'hui un phénomène qui induit que non seulement il y a des musulmans de plus en plus radicaux dans notre pays, mais surtout plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux, ce qui indique que les problèmes sont devant nous finalement.
Il y a parmi les victimes en Australie un jeune français de confession juive, Dan El-Kayam, qui a donc été abattu sur cette plage. C'est donc une nouvelle victime française du terrorisme. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui par rapport à ces Français de confession juive qui, pour certains, estiment qu'ils n'ont plus leur place en France, mais qui, en même temps, quand ils voient que, au bout du monde encore, l'antisémitisme touche, ne savent plus forcément où se rendre.
Ah bah, je comprends leur inquiétude, leur désespoir, voient parfois leur besoin de partir, ne se sentant plus protégés en France, puisque de fait, il me semble que toutes les mesures ne sont pas prises aujourd'hui pour assurer la sécurité non seulement de nos compatriotes juifs, mais plus largement des Français en général. Quand je vois qu'il y a encore dans notre pays des fichiers pour islamistes clandestins qui sont sur le sol français, des fichiers pour islamistes étrangers qui sont maintenus sur le sol français, quand je vois que nous n'avons même pas été capables de déchoir de leur nationalité des djihadistes qui étaient partis sur des terrains de guerre tels que celui de la Syrie, quand je vois qu'une fois de plus nous ne prenons pas toujours les mesures de précaution en matière une fois de plus d'immigration pour maîtriser ce flux venant de pays à risque, oui, je comprends qu'il y ait cette inquiétude.
Donc vous estimez que globalement, l'immigration est un risque ?
Ah bah je considère qu'indéniablement aujourd'hui, l'immigration dans notre pays est un des terreaux privilégiés de recrutement, bien sûr, du djihadisme dans notre pays.
Je précise que les deux terroristes présumés, un père et son fils, en Australie, étaient de nationalité australienne. Alors le père était arrivé en Australie et avait obtenu la nationalité australienne. Son fils était, semble-t-il, né en Australie, 24 ans. Le père a été abattu. Le fils est blessé, mais semble-t-il conscient. Il était connu des services de police, notamment pour des liens avec Daesh. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui vous estimez que tout, c'est-à-dire qu'il aurait été considéré en France comme un fichier S et peut-être même pas resté sous fichier S, puisque l'enquête, certes, qui avait duré 6 mois sur cet individu, avait conclu qu'il avait eu des liens avec Daesh, mais pas de nature à présenter une menace.
Bah, ça interroge d'ailleurs plus largement, c'est vrai en Australie, c'est vrai en France, notre politique d'acquisition de la nationalité, puisque là encore, on est face à des personnes qui étaient fichées par les renseignements. Moi, je défends depuis longtemps déjà la détention administrative des fichiers S et préventive des fichiers S, le temps de faire un état des lieux sur la situation de chacun. Est-ce que ce sont des clandestins et est-ce que ce sont des étrangers et auquel cas ils doivent retourner dans leur pays d'origine ? Est-ce que ce sont des binationaux et auquel cas on devrait pouvoir en effet se donner les moyens de les déchoir de leur nationalité parce qu'ils représentent des finalement à retardement sur le sol français, parce qu'aujourd'hui en effet nous avons des gens qui sont prêts à passer à l'acte et dont les services de renseignement ne parviennent
mais
pas systématiquement.
Est-ce que ça veut dire que chaque soupçon doit être suivi d'une sorte de surveillance accrue? Bah
c'est ce qu'on appelle un principe de précaution. Si vous voulez qu'on est capable de l'appliquer en matière écologique, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de l'appliquer en matière de djihadisme, sachant que c'est une menace existentielle pour la sécurité de la nation, qui menace la vie de nos compatriotes, et qu'à ce titre, quand on sait qu'on a des profils dangereux, dont tous d'ailleurs n'ont pas la légitimité à être sur le sol français, oui, il faut pouvoir faire un moratoire finalement sur la politique d'immigration et traiter de manière exceptionnelle ces profils-là pour apporter une réponse politique globale.
Comment on fait
durable
pour qu'il n'y ait pas d'amalgame?
Est-ce que vous redoutez qu'il puisse y avoir un amalgame ?
Moi, je pense que les Français, y compris de confession musulmane, font parfaitement la différence dans nos propos entre ceux qui aujourd'hui sont intégrés dans la société française et d'ailleurs condamnent sans aucune ambiguïté ce qui se passe de ce point de vue-là, et aujourd'hui la menace islamiste réelle, qui est une menace, il faut quand même oser le dire, de moins en moins minoritaire. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, quand 42% des 18 à 25 ans musulmans dans notre pays ont des sympathies pour des courants islamistes, si on n'est pas capable, si vous voulez, de nommer...
C'est cette étude de l'IFOP.
Absolument. Si on n'est pas capable de, et puis je pourrais vous donner plein d'autres exemples sur l'explosion, par exemple, du port du voile, et voilà. Et il faut quand même être capable de regarder cette réalité en face pour lui apporter une réponse. Et la réponse, elle passe, pardonnez-moi, par la question de la loi du nombre, bien sûr, parce que plus évidemment vous avez des populations.
C'est-à-dire quoi la loi du nombre?
Bah, la loi du nombre, c'est que si vous espérez pouvoir intégrer et même assimiler des populations, encore faut-il que ces populations dans un certain nombre de territoires soient au contact de la population native pour pouvoir s'intégrer à cette culture précisément qui est censée être la culture de référence. Si sur des pans entiers du territoire, vous n'avez plus qu'une politique multiculturelle avec des communautés.
C'est-à-dire quoi, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de ghetto. Et donc des communautés qui vivent de manière juxtaposée mais sans se mélanger.
C'est un fait absolu, voilà, je veux dire, plus personne aujourd'hui ne peut le contester, et ce qui fait que nous avons des viviers de recrutement privilégiés malheureusement de la part de ces islamistes avec des influences étrangères sur lesquelles je ne m'étends pas mais qui sont bien connues.
On met beaucoup en avant depuis hier cette image inouïe de ce héros qui a sauté contre le terroriste pour le désarmer avec un courage inouï. Il s'agit d'Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits de 43 ans, lui-même musulman. C'est important de le signaler ce matin.
Et qui est blessé d'ailleurs.
Et qui est blessé, qui a pris, visible, semble-t-il, deux balles.
Deux balles, en effet. Donc c'est un acte absolument admirable. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, heureusement d'une certaine manière, que dans le flux des personnes que nous accueillons, il y a des gens qui se comportent bien et qui se comportent même de fait là en héros et qui sont des gens, bien sûr, tout à fait admirables. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en parallèle de cet homme courageux, il y a les deux autres. Et donc, d'une certaine manière, une fois de plus, le principe de précaution doit nous appeler à remettre la politique d'immigration en général, j'ai envie de dire presque malheureusement.
Pis pour les Ahmed Al-Ahmed.
D'accord, mais malheureusement d'ailleurs aussi, vous avez raison pour ce monsieur. Mais en tant que responsable politique, nous avons d'abord un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos populations. Et quand on sait que ce risque existe aujourd'hui dans la politique telle qu'elle est menée, eh bien il faut être capable de prendre des mesures importantes et radicales.
En France, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a demandé le renforcement de la sécurité auprès des lieux de culte, immédiatement les lieux de culte juifs, avec les fêtes de fin d'année juive de Hanouka, mais il a aussi évoqué la question du renforcement de la sécurité des églises le soir de Noël. Il parle d'une tension terroriste aiguë en France. Est-ce que les mesures vous paraissent suffisantes ?
Bah, c'est toujours le même sujet, si vous voulez. Nous sommes en train de rentrer dans une logique d'un pays ultra... ultra policier, ultra sécuritaire, de fait, puisque nous avons cette menace aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on prenne le mal à la racine. Je vous en ai parlé longtemps, mais c'est vrai que moi, je vais avec mes petites filles, et comme beaucoup de parents, sur les marchés de Noël. Les marchés de Noël aujourd'hui sont des camps retranchés. Ça veut dire qu'avant de voir le sapin, on passe devant les plots en béton, avant de passer sous les guirlandes, on passe sous les portiques, et avant de rencontrer le Père Noël, on rencontre des soldats français avec des armes de guerre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue. Ça veut dire que ça devient normal, alors que c'est absolument infernal. Donc, de fait, on prend ces mesures en bout de course parce qu'on n'est pas capable de traiter le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 1, la question de la politique d'immigration, 2, la question des fichiers sur le sol français, 3, la question de la politique de la nationalité.
Les tensions agricoles sur le terrain. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue ce matin à Toulouse et dans le sud-ouest, qui est vraiment le cœur aussi de la contestation aujourd'hui, avec une question. Le monde agricole est lui-même d'ailleurs divisé. Faut-il vacciner? Faut-il abattre un troupeau entier lorsqu'une bête est malade? Quelle est votre position aujourd'hui, Marion Maréchal?
Alors déjà, il faut comprendre que cette crise agricole qui devient maintenant annuelle, hein, d'ailleurs, parce que chaque année, nous avons des grandes contestation, et souvent d'ailleurs bien légitime, s'inscrit dans une région qui a particulièrement souffert ces derniers mois, parce que l'Occitanie a eu en cumulé le sujet de la crise climatique, le sujet de la crise viticole avec les droits de douane américains. Je rappelle que cette semaine, nous traitons le sujet du traité de libre-échange avec le Mercosur.
On va y venir, mais d'abord sur bien cette sûr, question immédiate. On vaccine pas, voilà, on abat pas.
Je pose le contexte général, parce que ça me semble important. Sur la question de fond, qui est la question de la procédure, finalement, ou du processus sanitaire. Moi, je suis pas vétérinaire, et je suis pas épidémiologique, vous l'avez bien compris, donc je suis pas en mesure
mesure de vous dire quelle est aujourd'hui la procédure la plus légitime ou la plus efficace. Évidemment que si il existe une procédure assouplie qui permet d'éviter l'abattage de troupeaux entiers, j'espère d'ailleurs que le gouvernement se penche sur cette option et qu'elle est efficace, j'espère qu'elle pourra être prise en compte. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qui peut avoir des impacts très lourds, hein, à la fois en termes de mortalité sur notre cheptel de 12 millions de bovins, mais aussi en termes de productivité, qui a la menace de la baisse du prix, qui a la menace du risque de blocage des importations, des exportations, pardon. Donc, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est la méthode gouvernementale. C'est-à-dire que cette maladie, elle est apparue sur le sol français en juin. Une fois de plus, on a eu un retard à l'allumage, extrêmement long sur la question de la vaccination. Là où il faudrait de l'empathie, de la pédagogie, du dialogue, on a eu un gouvernement qui ne s'est pas adressé aux agriculteurs, qui ne s'est pas appuyé sur les vétérinaires qui font partie souvent de la famille dans les fermes,
les vétérinaires,
élevages.
Les vétérinaires, souvent, et on l'a entendu notamment sur les reportages ce matin sur AMC et BFM TV, ils sont dans une douleur extrême aussi aujourd'hui parce qu'ils disent devoir poser ce geste d'euthanasier les bêtes, ne pas être compris par les éleveurs, alors que disent-ils, ils le font pour protéger les éleveurs.
Mais évidemment, parce que quand on abat des bêtes, d'ailleurs, on n'abat pas seulement des bêtes auxquelles ils tiennent, on abat aussi des décennies de travail familiaux, de sélection génétique. Donc c'est un drame absolu. Mais ce que je veux dire, c'est que face à une profession, qui est déjà dans la douleur et dans le désespoir, une méthode gouvernementale qui consiste finalement à être absent pendant des mois, à ne pas mettre de dialogue, à ne pas mettre, comment dire, d'information, de pédagogie, et d'un coup arriver avec les hélicoptères et les centaures de manière quand même extrêmement violente, disons-le.
Oui, on fait quoi? Enfin,
ça n'est pas, bien, hein, ça n'est pas acceptable.
Marion Maréchal, mais d'un côté, vous dites qu'il faut respecter en quelque sorte l'ordre et la loi. La décision a été prise du point de vue sanitaire. En cas de bête malade, il fallait abattre le troupeau. Soit on remet en cause cette décision-là.
Je dis que les choses,
si on doit l'appliquer, il faut bien la faire appliquer.
Je dis que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre, voilà, et avec la bonne méthode. Et c'est vrai que beaucoup de Français se disent, quand on voit aujourd'hui l'absence de l'État à faire respecter la loi face à la dizaine mafia, et quand on voit la force de frappe qui est envoyée face aux agriculteurs, qui est une profession en souffrance, oui, ça interroge et ça fait mal au cœur.
Ce que je veux dire, c'est que fort avec les faibles et faible avec les forts.
De fait, indéniablement, quand on voit très régulièrement, même dans le monde agricole, d'ailleurs, que ce soit les cambriolages, le vol de matériel agricole, le saccage des cultures avec des rodéos. Quand on voit des occupations illégales de terrains agricoles dans lesquels l'État n'intervient pas, et sur les agriculteurs eux-mêmes qui sont obligés d'intervenir avec leurs tracteurs pour faire respecter leur terrain, et qu'on voit que face à cela, là, en effet, il y a des moyens considérables qui sont mis en place. Une fois de plus, moi, je vais pas, sur le fond, je veux pas jouer au médecin. Voilà, je suis pas en mesure de vous dire oui aujourd'hui faut vacciner, faut pas vacciner, faut tuer, faut pas tuer. C'est d'une certaine manière ça, je m'en remets à la science pour le coup. Et évidemment que j'aimerais qu'il y ait des solutions alternatives qui soient moins brutales. S'il n'y en a pas, malheureusement. Il faudra s'y résigner parce qu'il y a un vrai enjeu pour l'ensemble de la filière. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, est-ce que quand j'entends des agriculteurs témoigner et dire on a contacté le gouvernement, on n'a pas eu de réponse, est-ce que ça apparaît normal là où il faudrait justement de la pédagogie pour expliquer l'enjeu pour l'ensemble de notre filière? Et une fois de plus, une énergie d'un gouvernement qui n'est pas mis là et qui n'est pas mis non plus sur le blocage du Mercosur.
La ministre Genevard, qui sera sur place tout à l'heure, dit à l'instant qu'elle est ouverte, je cite, à la suspension si nécessaire de la procédure de lutte contre les dermatoses. Ça veut dire que donc éventuellement ne pas abattre, vacciner ou vacciner davantage.
Tant mieux si justement sont mises sur la table des solutions alternatives. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions justement de confinement à minima temporaire pour endiguer le développement de cette maladie? Tant mieux, mais une fois de plus, pourquoi c'est mis si tardivement sur la table? Et j'aimerais qu'Anne-Vinnie Genevard soit aussi impliquée sur ce sujet du Mercosur.
Alors dans précisément, lequel le gouvernement était très absent pendant des mois. Sur le Mercosur, à la fois du côté de Matignon, alors qu'un sommet donc du Mercosur est annoncé pour le 20 décembre, jeudi, le 20 décembre, pardon, mais avec notamment une réunion ce jeudi. Matignon dit, je cite, il est clair dans ce contexte que les conditions ne sont pas réunies pour un quelconque vote des États sur une autorisation de signature de l'accord. Et hier soir, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron a déclaré à ses homologues de l'Union européenne que, je cite, le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français. Il demande donc à la présidente de la Commission européenne un report de l'examen de l'accord.
Non, mais franchement, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron se moque des Français, quoi. Parce qu'en fait, en trois ans, on a eu quatre positions différentes. Il y a encore quelques mois, on avait le président qui a expliqué qu'il se félicitait de cet accord lorsqu'il se rendait au Brésil. Qu'a-t-il fait depuis des mois pour tenter d'obtenir une minorité de blocage avec un certain nombre de pays au Conseil européen qui eux-mêmes étaient opposés à cet accord? Je pense à la Pologne, je pense à l'Italie, je pense à l'Irlande. Rien n'a été fait. Et la semaine même de l'accord, il se réveille pour expliquer que finalement, ça n'est pas acceptable. Oui, évidemment, ça n'est pas acceptable. Je rappelle qu'on va importer quasiment 100 000 tonnes de bœuf supplémentaires auxquelles s'ajoutent les 200 000 importations que nous avons déjà, dans un contexte où en 2025, pour la première fois depuis 50 ans, probablement notre balance commerciale agricole va être
en train de devenir déficitaire.
Nous n'avons jamais été autant dépendants des importations agricoles étrangères. Je ne vais pas m'étendre, on en a largement parlé, sur la situation de désespoir aujourd'hui réglementaire, fiscale, sociale de nos agriculteurs. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ajouter à cela la concurrence de pays qui ne respecteront pas, de fait, les normes sanitaires extrêmement dur que nous imposons à nos agriculteurs, c'est se moquer du monde. Et comme à chaque fois, c'était vrai pour le CETA avec le Canada, c'était vrai pour la Nouvelle-Zélande, on nous fait des promesses qui ne sont jamais tenues.
Est-ce que vous y croyez là ? Est-ce que vous pensez en effet que le traité du Mercosur va être suspendu, que l'examen du traité va être suspendu ?
Bah écoutez, en tout cas, nous au Parlement européen, nous allons tout faire pour faire en sorte de durcir au maximum les fameuses conditions de réciprocité et de clause de sauvegarde, même si je préférais qu'il soit totalement suspendu, pour essayer de mettre dans la balance, de ces négociations, des contrôles qui soient beaucoup plus importants et qui, je l'espère, du coup, remettraient en cause la signature de l'accord. Mais je ne suis pas très optimiste, si vous voulez, parce qu'une fois de plus, Emmanuel Macron se réveille à la dernière minute et tout a été avancé depuis des années et des années.
Vous le disiez à l'instant, Marion Maréchal, vous êtes députée européenne, vous êtes aussi, je cite, présidente du parti Identité Liberté. Alors évidemment, je vous présente comme telle puisque c'est officiellement votre titre, mais ce parti, vous êtes combien ?
Comment ça, vous êtes à combien d'adhérents,
je sais
vous
pas,
voulez dire?
Ouais, vous êtes oui, combien d'adhérents?
Écoutez, on est à peu près 10 000 adhérents. Nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale, 4 eurodéputés au Parlement européen qui siègent en effet dans un grand groupe européen parmi lesquels on retrouve les Italiens de Fratelli d'Italia et de Giorgia Meloni, qui est notre allié officiel.
Quel est votre lien avec les autres partis, avec le RN, avec Reconquête, avec le parti d'Éric Ciotti? Comment vous vous situez là-dedans?
Bah, écoutez, moi, sans vous apprendre grand chose de nouveau, je suis une fervente partisane de l'Union des droites et de la coalition des droites. Donc moi, je fais
ça
en sorte
ou pas
et je fait tout pour que ces partis travaillent ensemble, je l'espère d'ici 2027. Au Parlement européen, c'est ce que nous faisons. Nous sommes un groupe pivot, nous travaillons à la fois avec le centre droit dans lequel se trouvent les LR de François-Xavier Bellamy et le groupe de Jordan Bardella. Et grâce d'ailleurs à cette situation pivot créée très régulièrement au Parlement européen,
nous constituons des groupes majorité de droite. Pas juste aux 3 autres partis que je viens de citer, mais également aux LR.
Je pense pour également vous, à LR, je pense même à Nicolas Dupont-Aignan, je pense évidemment à Reconquête, je pense même
et
je
vous sais êtes de plus en plus nombreux à avoir chacun.
Oui, et je sais d'ailleurs que ça fait écarquiller les yeux, mais je pense même à une partie d'Horizon. Je pense que nous avons des choses à faire avec une partie des gens
du
qui
parti
aujourd'hui
Philippe.
Se trouvent dans ce mouvement et d'ailleurs
avec Édouard Philippe lui-même, vous vous sentez parfois en accord.
Édouard Philippe, c'est un peu compliqué parce que tant qu'il continuera d'expliquer qu'il préfère voter communiste que Rassemblement National dans un deuxième tour, ça me semble pas très clair, mais je pense par exemple à une femme comme Christelle Morançais, qui aujourd'hui est présidente des Pays de la Loire et qui a une politique, par exemple, de baisse des dépenses face aux subventions de gauche, que je trouve très intéressante. Et cette majorité, elle a eu lieu, souvenez-vous, à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur la suspension de l'accord de 68 avec l'Algérie.
Avec
donc
l'Algérie,
c'est possible.
Où ils ont tous effectivement voté ensemble contre cet accord. Merci Marion Maréchal d'avoir répondu à mes questions ce matin. Présidente donc du parti Identité Liberté et députée européenne. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Marion Maréchal était mon invitée ce matin. Nous avons parlé de la crise qui traverse les éleveurs et Jean Castex voulait absolument réagir. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Malherbe. Bonjour à tous. Écoutez, cette épidémie touche les vaches et n'est pas sans me rappeler la crise de la Covid.
Ah oui.
Et je pense qu'il y a des solutions pour les vaches non contaminées. À l'époque, nous avions mis en place des solutions. Il faut savoir s'en inspirer, Madame Malherbe.
Bien sûr.
Il y a des choses qui marchent. Il faut que les vaches saines, je le dis puissamment, solennellement, puissent remplir des formulaires d'auto-attestation de sortie pour aller gambader, brouter, dans la limite, bien sûr, du kilomètre alentour.
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr, il faut également, oui, parce que j'entends ceux qui vont me dire que les vaches ne sont pas formées pour remplir un formulaire en bonne et due forme. Je ne suis pas complètement déconnecté de la vie réelle. Je comprends. C'est la raison pour laquelle je propose de lancer une solution beaucoup plus pratique pour nos vaches.
Ah.
C'est d'aller sur l'application Tous Anti-Bovid.
Ah, bien sûr. Voilà. C'est pour éviter quoi? La propagation de la maladie?
Non, écoutez, on ne peut pas tout demander aux agriculteurs. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, les vaches se responsabilisent.
Ah oui.
Voilà, ce sont quand même les premières concernées. Mmh. Il faut qu'elles appliquent les gestes barrières.
Bien sûr.
Tousser dans le coude. Manger son foin quand on passe à table sans dépasser une jauge de 6 bovins par étable, vous voyez. Et puis bien sûr se confectionner s'il le faut, se confectionner d'urgence des masques avec les moyens du bord en allant voir un tuto de ci de là, en confectionnant, trouvant du tissu, je ne sais pas moi, dans des restes de slip d'agriculteurs de l'amour et dans le pré, par exemple, parce que ça en fait du tissu.
Oui, les slips d'agriculteurs. Merci Jean Castex. C'est Pascal Praud qui est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Les titres ce matin, bonjour à mon collègue Thibaut Texer, jaloux de ne pas entendre sa voix ce matin. Et les titres ce matin, c'est cette crise chez les éleveurs, on y revient avec ces abattages massifs. La ministre Annie Genevard sera ce matin sur place pour rassurer les éleveurs, mais surtout pour rassurer les gendarmes, les policiers qui encadrent ces abattages. Pas de crainte, messieurs, la dermatose nodulaire ne se transmet pas aux poulets. Brigitte Macron a porté son soutien au plan d'abattage en déclarant, je cite, « On va les liquider, ces sales cornes !» Et puis ce drame sur une plage en Australie, 16 tués, vous l'avez dit, lors d'une fête juive à Nuka, et un héros, on a vu les images, qui vient désarmer l'un des assaillants, et ce héros s'appelle Ahmed El Ahmed. Voilà. Tout est dit. C'est vrai qu'on est un peu perdu. Je ne sais pas comment interpréter. Oui. Tout cela est très complexe, le monde dans lequel on vit. Ben oui, non, mais si maintenant, écoutez Apolline, si maintenant les héros commencent à porter des noms de terroristes, c'est vrai que c'est confusant. Ça n'aide pas à comprendre notre société. Si encore il s'appelait juste Ahmed. Mais là, Ahmed El Ahmed, voyez, on sent, il insiste, voyez. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle.
Voilà, c'est ça, merci Pascal Praud. Allez, on reçoit Jérôme Bail, vous êtes le porte-parole des agriculteurs. C'est vous qui avez décidé de bloquer l'autoroute A64, c'est un moment difficile pour vous.
Effectivement, madame, la situation est compliquée. Sur place, je ne vous crache pas, en tant que porte-parole, c'est difficile. 15 interviews par jour. Heureusement, j'ai Josiane qui est mon attachée de presse qui gère ça au cordeau et ça se passe bien.
Cette dermatose, elle touche un monde agricole déjà en crise depuis longtemps.
Effectivement, la crise agricole remonte, on s'en souvient, à janvier 24 où j'étais monsieur Attal sur la botte de paille. Ça fait maintenant 24 mois que c'est compliqué pour nous. Moi, je dois dire à titre personnel, 24 mois comme ça, sans caméra, sans micro. Alors que je commençais à avoir ma petite notoriété, ça commençait à me manquer. C'est vrai que cette dermatose nodulaire, elle arrive à point nommé pour nous permettre de retrouver le devant de la scène. Cette exposition médiatique, c'est vrai que ça a changé ma vie. Maintenant, c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux. Je connais Monsieur Marchand personnellement. J'ai trouvé une compagne.
Ah oui?
Oui, parce qu'il faut se rendre compte de l'évidence, madame. Regarde, nous, dans nos exploitations, on est isolés. Il n'y a pas 36 moyens de faire des rencontres. Soit tu t'inscris à l'amour à l'emprunt, soit tu bloques une autoroute.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi votre message, sinon, aujourd'hui, Jérôme Bail?
Ben, mon message, je dois dire que c'est compliqué. Parce que moi, je parle à mon nom, mais chacun y va de sa revendication sur ses affinités politiques. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand même, sur le terrain. Il y a la FNSEA, la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne, la Congrégation des Travailleurs de la Terre, l'Association des Laboureurs de Basse Bigorre, les représentants de la coopérative céréalière, l'amicale de la filière bovine. Même moi, je m'y pompe, je sais plus le message qu'il faut passer, tu vois. Je préfère laisser la parole à José Bové, lui, il a l'expérience, il a de la parole syndicale, il a fait beaucoup de manifs. José, tu peux venir, il y a la petite, la Pauline RMC, là, qui veut te dire un mot, là.
Oui, bonjour, monsieur Bové.
Oui, bonjour madame de Mer. Écoutez, moi en tant que représentant des confédérations paysannes et végétales des abattages de troupeaux, nous prouvons la mobilisation, il faut absolument montrer une campagne de vaccination massive de tous les paysans déterminés pour avoir des exploitations aussi longtemps qu'il faudra, que je au premier de l'an.
Merci José. Encore, il vous a pas dit qu'on était prêt à tenir jusqu'à Noël.
Je l'ai dit, mais j'étais pas avec Irlande, du réveillon de Noël, le premier de l'an.
Ah oui, j'ai dit, en fait, on n'avait pas réalisé. Merci, messieurs, en tout cas. Et on retrouve justement Alain Marchal, qui va nous faire le sommaire des grandes gueules.
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui dans le GG, nous parlerons bien sûr de cette épidémie chez les bovins avec nos spécialistes Bruno Poncet, cheminot, et Sandrine qui est fleuriste à Cabourg, qui va nous apporter son regard sur ces mesures vétérinaires puisque sa sœur elle-même possède un chat. On évoquera bien sûr la lutte contre le narcotrafic à Marseille avec Jean Damien, fabricant de bijoux artisanaux en Ardèche, qui est un consommateur régulier de Doliprane. On entend bien sûr son avis sur le narcotrafic. Et puis bien sûr, on a le général Pierre Devilliers, ancien chef d'état-major, qui nous parlera bien sûr de Lou Deleuze, 11 ans, qui a gagné l'Eurovision Junior. Le général d'armée nous parlera donc de cette victoire de la France. Et puis nous parlerons de ce terrible attentat sur une plage à Sydney avec Christiane, qui est retraitée, qui justement vient de passer son dimanche sur la plage de Biscarrosse. Vous l'avez compris, les meilleurs experts pour tout comprendre de l'actualité sont dans les GG.
Merci beaucoup Nicolas, face à Cantelou, tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast.